Les décodeurs de l'écho, évidemment consacrés à cette rencontre, à cette visite d'État du président de la République, donc pendant 48 heures auprès du président américain Donald Trump. Petit tour de table donc pour démarrer. Jérémy Gallon avec nous, directeur général de l'AMCHAM, France, conseiller de politique étrangère dans le think tank Atlantic Council. Le point d'achoppement, c'est vraiment l'Iran, bien entendu, hein, objet de discussions très dures tout à l'heure dans le bureau ovale de la Maison Blanche. C'est vraiment le problème, le point le plus important. Emmanuel Macron dit tout à l'heure vouloir travailler sur un nouvel accord avec donc Donald Trump sur Téhéran, sur cet accord du nucléaire. Première question, que prévoirait ce nouvel accord, justement? Deuxième question, Donald Trump est-il enclin à vouloir suivre Emmanuel Macron ?
Le point essentiel de l'accord iranien, lorsqu'il a été négocié notamment par l'administration Obama et les puissances européennes, mais également Chine, Russie, qui étaient signataires de l'accord, c'était de dire on ne s'intéresse qu'aux capacités nucléaires de l'Iran et on bloque les capacités nucléaires jusqu'en 2025.
Tout juste.
Et on ne lie à aucun autre dossier. Et donc notamment pas à la présence politique de l'Iran, que ce soit au Yémen, en soutien Houthis, au Liban, Hezbollah,
etc. Et en Irak, etc. Tout à l'heure, président Macron.
Voilà. Et les différents autres sujets. Là, la vraie rupture, et le président Macron l'a souligné, c'est qu'on va vers un accord qui réglerait quatre dimensions. Le nucléaire, donc jusqu'en 2025, qui est négocié par l'accord, mais également le nucléaire post 2025, les activités balistiques de l'Iran, troisième point, et puis quatrième point, l'influence de l'Iran dans la région. La question, c'est est-ce que le régime iranien est prêt à entrer de nouvelles négociations là-dessus? Jusqu'à présent, tous les signaux qu'on avait eus au cours des années passées, c'est que ça n'était pas le cas. Donc,
et encore ce week-end, hein, à Téhéran, que disait-on, l'Iran reprendra vigoureusement l'enrichissement d'uranium en cas de rupture de l'accord. Première étape pour fabriquer l'arme atomique, bien entendu.
Donc, cela va être des négociations extrêmement complexes, dans lesquelles, si la France et les États-Unis veulent s'engager sur de nouvelles négociations, il faudra également convaincre la Russie, la Chine, de s'engager sur ces nouvelles négociations, et le Royaume-Uni et l'Allemagne, et l'Union européenne. Donc, c'est un chantier extrêmement complexe qui va prendre du temps. Maintenant, il faut voir si c'est peut-être la seule possibilité de garder les États-Unis dans l'accord. Sinon, le cas échéant, ça aurait peut-être été le retrait le 12 mai des États-Unis.
Il y a urgence. Il veut travailler sur un nouvel accord donc avec Téhéran et Emmanuel Macron, avec Trump exactement sur l'accord nucléaire. Enfin, un tel accord, c'est pas en 5 minutes que ça se met sur pied.
Ça prendra des mois. La question, c'est est-ce que Trump va accepter de valider une nouvelle fois, le président Trump va une nouvelle fois valider l'accord le 12 mai et potentiellement entrer dans de nouvelles négociations en parallèle? Est-ce que c'est la monnaie d'échange contre l'entrée de nouvelles négociations? Ça, c'est l'avenir qui le dira.
Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis, auteur de 1968, Quand l'Amérique gronde. Vous êtes souvent venu ici nous en parler. L'Iran, il en fait une fixette, Donald Trump. On l'a encore entendu tout à l'heure, on l'a encore entendu cet après-midi, en permanence, justement. Il va accepter de vouloir renégocier un nouvel accord vis-à-vis de son opinion publique, son opinion politique, justement. Il va leur dire, à tous ceux qui ont voté pour lui, finalement, je vous avais dit qu'on jetterait cet accord, qu'on le déchirait, puis finalement, on va peut-être leur donner une nouvelle chance, c'est un peu ça?
Mais c'est pas contradictoire. En réalité, il s'agit de jeter le plus mauvais accord qui ait jamais été signé. Je reprends les mots de Donald Trump, bien évidemment, vous aviez compris. Et vient nous refaire ce soir une phase de sa campagne, puisqu'il explique à chaque fois les milliards qui ont été donnés à l'Iran sans contrepartie.
Dans des caisses, dans des barils.
C'est ça, en liquide, dans des caisses, donc discrètement, et on sait pas ce que cet argent devient. Et ça, c'est de l'argent des contribuables américains. C'est ce qu'il dit dans chacun de ses meetings. C'est ce qu'il répète actuellement, puisqu'il est reparti en campagne, et que tous ses électeurs ont en tête. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas prêt à renégocier un autre accord qui serait un bon accord pour l'Amérique, dans lequel on ne mettrait pas de l'argent liquide sur la table ou dans des barils ou ce que vous voulez. Et moi, ce que je remarque et qui me frappe quand même, c'est qu'il nous dit ce soir, tout simplement, c'est que la France est prête à le suivre sur la renégociation. C'est quand même pour moi un scoop. D'ailleurs, j'en ai entendu deux de scoop là en quelques minutes. J'ai entendu également Emmanuel Macron qui nous explique que les échanges commerciaux, on est donc sur un autre terrain.
Oui,
excusez-moi, je change de question.
Non, mais allez-y, on donnera la parole à Denis.
Il nous dit que les échanges commerciaux entre la France et les États-Unis sont à équilibre.
Tout juste.
Donc, on est dans une relation bilatérale. Et c'est bien ce que nous a annoncé Donald Trump depuis le départ, qu'il ferait des relations bilatérales. Or, Emmanuel Macron, depuis le départ, s'est présenté comme le chancre de l'Europe. Et donc, de présenter les intérêts de l'Europe. Et sur les tarifs douaniers, puisqu'il s'agissait de cela, ce sont tous les Européens qui étaient visés. Et en particulier, plus un que tous, c'était notre voisin allemand qui va aller discuter vendredi de son petit problème de d'échanges commerciaux en particulier des voitures, c'est ça, et expliquer pourquoi il y a tant de BMW, d'Audi et de Mercedes
sur la
5e avenue. Emmanuel Macron donc a gentiment choisi de ne pas parler de cette question-là en ramenant la question uniquement à un côté franco-américain. Ça, pour moi, c'est un vrai scoop. Hein. Là-dessus, je dirais 2 points pour Donald Trump, 0 pour la France dans le voyage. Je ne sais pas ce que les autres
pensent. Emmanuel Macron n'a pas cherché justement à faire en sorte que Donald Trump ne casse pas tout de suite cet accord iranien quand même?
Je sais pas, c'est pas ce qu'on a entendu pour l'instant. Donc il faudrait peut-être entendre la suite, mais dans ce qu'on vient d'entendre, c'est pas l'impression que j'en ai.
Alors Denis Ferrand, directeur général de CE Rexecode.
C'est vrai que sur le point commercial, Trump mène son jeu qui est de limiter au maximum le multilatéralisme. Et en fait, tout part du diagnostic que les mots viennent de l'immersion, de l'entrée de la Chine dans l'OMC à partir de 2001. Et donc, rétablir un commerce juste, équitable, c'est déjà retrouver les conditions d'une négociation d'égal à égal en bilatéral avec la Chine. Tous les premiers gestes...
La Chine ne nous a jamais traités avec autant de respect que depuis que je suis arrivé, rappelait il y a quelques secondes Donald Trump.
Un des premiers gestes de Trump, quand il est arrivé, c'était quand même de dénoncer le traité transpacifique. Donc on voit bien qu'il y a une lecture qui consiste à oublier le multilatéralisme et à entrer dans un jeu bilatéral. Enfin, la manière dont c'était fait, dont a été annoncé l'accord, enfin, les sanctions sur l'aluminium et l'acier étaient tout à fait symptomatiques. C'était, on va mettre pour tout le monde une taxation sur l'acier et l'aluminium, sauf si vous venez discuter. Et bon, ça y est, c'est fait. On rentre à nouveau dans un bilatéralisme et non plus dans un multilatéralisme avec des arguments de la puissance qui ne sont pas forcément les mêmes quand on traite en bilatéral et quand on traite en multilatéral. C'est là tout l'enjeu d'user de l'argument de la puissance.
Oubliez Macron, nouveau leader de l'Europe, c'est Macron, le président de la France, qui était là ce soir, Jérémy Galland.
Non, je suis pas certain, parce que le président Macron a quand même rappelé son attachement au multilatéralisme. Il a mentionné l'OMC, il a mentionné les règles de l'OMC. Donc je pense que par rapport à ça, il a pas nié la position française qui est l'attachement au multilatéralisme. Par ailleurs, je pense que le président Macron a probablement essayé de négocier que l'exemption qu'ont accordé les États-Unis à l'Union européenne jusqu'au 1er mai devienne permanente. Post-1er mai. Et par ailleurs, je pense qu'il a essayé également de faire comprendre probablement au président Trump que si le président Trump et les États-Unis veulent vraiment renégocier les règles du commerce international avec la Chine, ils devront créer une alliance avec l'Union européenne. Et donc c'est l'Union européenne et les États-Unis qui devront travailler ensemble pour redéfinir les règles du jeu multilatéral. Donc je pense pas du tout qu'il y a une volonté du président Macron d'aller sur une ligne purement bilatérale, mais c'est peut-être simplement essayer de renforcer cette relation qu'il a avec le président Trump pour mieux renégocier demain les règles du multilatéral. Et juste pour rebondir là-dessus, parce que je pense que les préoccupations exprimées par les États-Unis quant à certaines inefficiences de l'OMC, au fait que le commerce international jusqu'à présent n'a pas toujours été juste et équitable, sont partagées par les Européens, sont partagés par le président Macron.
Donc, pas d'accord quand même quand Jean-Éric Brana nous disait tout à l'heure, Trump a marqué plus de points que Emmanuel Macron.
Non, je pense qu'il y a une conférence de presse qui pour l'instant est plutôt équilibrée.
Jean-Éric, on va y retourner dans un instant.
Je suis effectivement d'accord avec vous quand vous parlez de volonté d'Emmanuel Macron. Je crois que la volonté n'a pas changé. Je parlais de la rhétorique de ce qu'on a entendu. Cette rhétorique, enfin moi c'est les mots que j'ai entendus, je ne sais pas si vous en avez entendu des différents, mais ça m'a frappé quand même qu'il parle d'équilibre entre les deux pays et qu'il oublie de parler des partenaires européens. Je ne dis pas qu'il avait un mandat des autres Européens, bien évidemment il est là en tant que président de la France et c'est une visite d'État, on est bien d'accord là-dessus, mais tout de même, on sait bien que c'est pas nous qui sommes visés dans ces barrières douanières, hein. C'est surtout les Allemands. Soyons précis sur les choses. Donc là, se défausser, enfin, quand on a un meilleur ami ou quelqu'un de la famille qui est visé, on dit pas hop, je laisse passer la balle et puis finalement, c'est pas pour moi ce coup-là. Ça semble un petit peu, j'ai employé le mot, déloyal. Et les Allemands qui ont déjà été froissés par autre chose, à savoir le chêne qui a été planté, puisqu'ils ont eu l'impression que c'était fait un petit peu contre eux, puisque c'était un chêne qui symbolisait une victoire américaine contre les Allemands, et qui en parle aujourd'hui dans la
première
presse,
guerre mondiale,
vont certainement dire demain, enfin deux fois dans la même journée, ça fait un peu beaucoup.
Jérémy Galland,
Il faudra voir, je pense, à l'issue également de la visite de la chancelière Merkel, si oui ou non, à ce moment-là, le président Trump décide de lever l'exemption et de la poursuivre au-delà du 1er mai. Je pense que là, on verra effectivement le résultat des négociations du président Macron et voir si ça n'était que rhétorique et si, justement, cette rhétorique n'a pas été utilisée pour renforcer la position de l'Union européenne à l'égard des États-Unis.
Et je crois qu'on est à peu près tous d'accord que l'exemption ne sera pas levée et qu'elle sera effectivement reconduite. C'est à peu près ce vers quoi on se dirige. Le président Trump a expliqué que Mnuchin allait en Chine très bientôt pour essayer de calmer les tensions. C'est évidemment pas l'Europe qui est qui est dans le viseur premier de l'Amérique. Donc c'était bien sûr assez d'accord là-dessus.
Où est-ce qu'on en est exactement de différent de cette menace de guerre commerciale? Qu'est-ce qui a été mis en route? Pour l'instant, on est toujours à l'état de menace.
Pour l'instant, on est à l'état de menace, tout à fait. Sachant qu'il faut regarder aussi où se déplace la tourelle du char, hein, d'une certaine manière. Et en fait, ce qui est véritablement visé, l'argument commercial, c'est le levier sur lequel on peut actionner tout de suite, mais ce qui est véritablement visé, c'est la transfert des droits de propriété, c'est l'appropriation d'entreprises américaines par les Chinois. C'est ça qui est en fait la principale cible des revendications américaines sur la période récente. Il y a une volonté de freiner l'expansion chinoise qui est quand même très marquée, très délibérée, avec un plan à l'horizon 2025 de monter en puissance dans une dizaine de secteurs clés. Et aussi une autre question qui va se poser, qui n'a pas été exprimée dans cette conférence, qui est la question monétaire. La question de la monnaie, avec l'émergence du yuan comme une monnaie de plus en plus internationale, est une source de préoccupation forte du côté américain.
Ce qu'il faut rappeler, on le dit en permanence, et vous allez nous le redire, Denis Ferrand, la Chine est le premier détenteur non résident de titres du Trésor américain. Cette position lui procure une arme de dissuasion, oui ou non?
Oui, c'est une arme de dissuasion. La Chine, elle détient à elle seule 7% des titres du Trésor américain, 7,2%. Donc, si elle décidait d'un seul coup de les vendre, il est certain que le financement de l'économie américaine serait pour le moins compliqué, que l'on aura à ce moment-là une remontée des taux. Mais une remontée des taux serait tout aussi dommageable aux créanciers qu'elle le serait pour le débiteur. Donc là, on est un peu dans du jeu du « je te tiens, tu me tiens », qui fait que tout le monde est un peu lié. C'est une arme à double tranchant. Et en fait, la Chine, comme d'habitude, use de la longueur du temps. Et si elle veut réduire son exposition sur les titres américains, elle le fait de manière très graduelle, très feutrée, et ce faisant, se désengage de ce risque. En revanche, elle est en train de refiler petit à petit la patate chaude aux États-Unis, parce que la question du financement est désormais vraiment très clairement posée aux États-Unis, avec une politique budgétaire très prodigue.
Et ça pose la question de comment les États-Unis vont financer un déficit public croissant.
En tout cas, pour l'instant, ils ont trouvé des supplétifs. C'est-à-dire que la Chine a été remplacée par d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, comme l'Inde, comme la Corée du Sud, qui ont acheté de plus en plus de titres du Trésor américain. Donc pour l'instant, il y a des supplétifs. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est est-ce qu'ils ont les poches aussi profondes que ne l'a la Chine? Et en réalité, quand vous faites le cumul des excédents courants, en fait, une économie, elle peut acheter des titres à l'extérieur à partir du moment où elle va dégager un excédent commercial, un excédent courant. Donc, quand on regarde actuellement, c'est la Chine, mais c'est aussi le Japon, la Russie, sont en train de vendre des titres du Trésor américain. Et tous ces pays, ils ont un excédent courant. Ils ont un excédent courant qui est de 600 milliards de dollars. Les pays qui achètent actuellement des titres du Trésor américain, ils n'ont un excédent courant que de 50 milliards de dollars. Donc, ils n'ont pas tout à fait la même profondeur de poche que n'a la Chine et le Japon au moment d'acheter des titres US.
Jérémy Gallon, l'AMCHAM et Atlantic Council, justement, oui, États-Unis, Chine. Tout à l'heure, Donald Trump disait la Chine ne nous a jamais traités avec autant de respect que depuis je suis arrivé, justement. Qu'est-ce qu'il veut dire Donald Trump? Qu'est-ce qu'il va leur dire aux Chinois lorsqu'ils vont discuter?
Je pense qu'il y a plusieurs enjeux très importants et plusieurs dossiers très importants. Effectivement, la guerre commerciale, mais également le sujet Corée du Nord, sur lequel il n'y aura aucun règlement de la crise sans une coopération très forte entre les États-Unis et la Chine. Ensuite, je pense qu'il veut renégocier les règles, évidemment, du jeu multilatéral et notamment les règles commerciales avec la Chine. Le problème, c'est que, comme vous l'avez dit, la Chine s'inscrit dans une perspective de long terme. Ce sont des stratégies de long terme qui sont mises en œuvre face à des États-Unis qui sont beaucoup dans le court terme, notamment depuis le début de la présidence Trump. Et par ailleurs, la Chine a su profiter d'un déclin relatif des États-Unis pour être beaucoup plus présent dans le jeu onusien, dans le jeu multilatéral, probablement d'ailleurs plus rapidement que les Chinois l'avaient prévu eux-mêmes. Et donc je pense que les négociations côté américain ne vont pas être évidentes. Ensuite, il faudra voir sur la Corée du Nord si on a des avancées concrètes. Le président Trump a mentionné ce dossier dans la conférence de presse. Il a souligné jusqu'à présent que ses efforts portaient des fruits. porter leurs fruits. Il faudra voir, effectivement, lors de la rencontre possible entre le leader nord-coréen et le président Trump, ce qui aboutira à la suite de ces négociations.
Jean-Éric Brenard.
Oui, il a aussi modéré les avancées sur le dossier de la Corée du Nord. C'est quand même très intéressant parce que au moment où l'opinion publique américaine commence à croire que la méthode Trump pourrait fonctionner, et on a ce basculement qui se fait aux États-Unis, je parle pas dans la classe politique, bien sûr, qui s'oppose à Donald Trump toujours avec virulence, mais dans le public de façon générale, qui voit que les deux hommes vont se parler, et ça c'est assez inattendu pour le souligner. Donald Trump, lui, a tweeté il y a deux jours en expliquant qu'il fallait attendre et que en 1994, on s'en souvient déjà plus, mais Jimmy Carter était allé négocier un accord qui avait été trahi très rapidement, deux ans après, donc qu'il fallait se méfier et qu'il attendrait qu'il y ait un démantèlement de l'arsenal nucléaire avant de lever les sanctions. Ça, c'était un nouveau Trump.
Pour l'instant, il n'en joue pas plus que ça en disant...
Mais quand même, puisqu'il y a ce tweet, c'est un nouveau Trump qui devient présidentiable ou présidentiel, ou en tout cas différent, qui calme les passions autour de lui en disant non, mais ne vous affolez pas. Alors d'habitude, c'est lui qui est le premier
aller en avant. On aurait pu penser qu'il dise à un moment, bon, regardez, grâce à moi, finalement...
Ah, mais il le dit aussi.
Oui.
ça va avec, oui.
Bon, très bien. On continue donc à propos du nucléaire iranien. Là, au moment où la conférence de presse se poursuit, on y retournera dans un instant. Trump veut un nouvel accord avec des fondations solides. Cet accord donc sur le nucléaire iranien. 250 ans d'amitié entre deux pays. On a entendu tout à l'heure, Donald Trump rivaliser d'amabilité, de remerciements sur la vigoureuse relation commerciale entre les deux. Il a salué le leadership d'Emmanuel Macron. Nous ferons le nécessaire pour protéger nos pays. Remerciements aussi. Plusieurs reprises sur les frappes contre la Syrie. Hommage également au colonel Beltram. Bon, Trump évoque son extraordinaire amitié avec Macron. Est-ce que tout ça est réel? Est-ce que tout ça est sincère? Qui se sert de l'un? Qui se sert de l'autre? Jérémy Gallon, l'AMCHAM et l'Atlantic Council.
Oui, je pense que c'est sincère parce que il y a effectivement cette alliance qui a des fondements historiques extraordinaire. Et puis aujourd'hui, la France est quand même vue comme le partenaire clé par Washington, notamment sur les questions de sécurité, sur les questions de défense. Les États-Unis se reposent beaucoup sur la France en Afrique subsaharienne. Au Moyen-Orient, on a vu qu'il y a une coopération très forte dans la lutte contre Daesh, dans les frappes récentes, etc. La France est aujourd'hui vue comme le partenaire clé de Washington et le seul pays probablement européen qui a des véritables capacités de projection extérieure, avec le Royaume-Uni dans une moindre mesure, mais la France est aujourd'hui vue comme l'acteur clé. Donc je pense que cette alliance, cette amitié, elle n'est pas feinte. Ensuite, il y a effectivement une relation personnelle sur laquelle on peut discuter, etc. Mais il y a effectivement les fondements d'une relation géostratégique très forte et puis également économique, parce que il y a quand même de part et d'autre de l'Atlantique des millions d'emplois qui dépendent de cette force des relations, de la relation transatlantique. Et donc je pense que au-delà des divergences entre présidents, entre chefs d'État américains et français, il y a quand même une relation franco-américaine qui, quoi qu'il arrive, est extrêmement forte. Et dernier point, qui repose également sur un socle de valeurs communes. Et ça, il faut surtout pas l'oublier, malgré les tweets intempestifs du président américain. Je pense que entre les États-Unis et la France et l'Europe plus généralement, il y a quand même cette communauté de valeurs. Et dans un monde de plus en plus instable, où, pour reprendre l'expression de Nicolas Bavrez, il y a des démocratures notamment qui essaient d'augmenter leur influence. Je pense à la Turquie d'Erdogan, à la Russie de Poutine, etc. Je pense qu'il est plus essentiel que jamais de maintenir ce lien.
Ils partagent les mêmes valeurs l'un et l'autre, Trump et Macron. Jean-Éric Brenard.
Oui, je pense. Juste pour être précis sur les dates, c'est pas 250, mais 242 ans si on prend 1776 comme base de référence. Et si on prend la fin de la guerre, qui est donc en 1780, c'est 237 ans. On est encore loin des 250 ans qu'on fêtera peut-être, je le souhaite, mais
ce serait...
Non, mais tout le monde a fait 250 ans. Bon, voilà, c'était pour détendre un petit peu. En réalité, c'est quand même très loin. Ça fait beaucoup, effectivement. Ce sont des valeurs anciennes et qui ont fait, ça a été dit, répété, il n'y a pas eu de guerre entre les deux pays durant toute cette période. Et ce n'est pas rien. Il y a eu quelques tensions, il y a eu effectivement quelques grognements de part et d'autre, mais bon, comme dans toutes les famille, donc on pourrait dire que on est presque de la famille. C'est vrai que les valeurs sont les mêmes, elles reposent sur la même idée de la démocratie, même si on n'en fait pas la même chose à la fin, la même philosophie politique, la même construction de société, donc c'est vrai qu'on se ressemble, on est fondamentalement différents, on le dira jamais assez, mais on se ressemble quand même vraiment beaucoup.
Et on s'assemble un peu quand même.
Donc. Et on s'assemble, il y a beaucoup de complémentarité, et ça continue dans ce couple un petit peu atypique. C'est vrai que c'est à la fois ça se ressemble et c'est différent, et la complémentarité joue à plein, et je suis assez d'accord
avec Jérémy Gallon
sur beaucoup de points évidemment, mais sur le point particulier de l'alliance sur le plan militaire et sécuritaire et l'accord qui avait été signé avec Le Drian en 2016, novembre 2016, a marché à plein durant l'année 2017. Nos services de renseignement travaillent ensemble, échangent. Au Sahel, on ne pourrait pas fonctionner sans l'apport et le soutien des Américains. Comme vous avez dit, ils attendent qu'on fasse le travail de base sur place. Donc tout ça, ça crée quand même des liens et ça fait que sur le terrain, ça marche. Pourquoi ça ne marcherait pas en haut?
Bon, c'est le principal atout d'Emmanuel Macron, c'est le militaire, Jean-Luc Brana, Jérémy Galland aussi. D'ailleurs, Trump n'a cessé de saluer la France pour ses frappes en Syrie il y a une dizaine de jours à peu près.
Bah, je crois que la diplomatie, ça commence par là d'abord, pour laisser des pays en paix. Et effectivement, on a quand même été très liés dans la lutte contre Daesh, dans le terrorisme de façon générale. Et effectivement, pour rendre la paix au monde, aux citoyens, dans non seulement nos deux pays, mais l'ensemble des pays du monde. Donc c'est vrai que les deux nations sont des phares, sont des lumières pour ça et ont bien fonctionné. Donc oui, je crois que c'est très fort dans la base qui fait que ça fonctionne.
Oui, Jérémy Galland.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que la question sécuritaire, l'alliance sécuritaire est absolument essentielle entre les États-Unis et la France. Et puis à côté de ça, il y a aussi deux choses, je pense, qui unissent quelque part ces deux présidents au-delà de leurs divergences. Hein, ce sont deux outsiders. Ce sont deux personnes, personne ne pensait qu'ils pouvaient réussir. Et ils ont pris le pouvoir chacun, alors que tous les commentateurs, etc., tout l'establishment politique leur disaient qu'ils ne le prendraient jamais. Donc ils ont ce côté outsider, tous les deux. Et puis chacun, ils font face à des défis communs, à des sociétés extrêmement fracturées, avec une partie de la société américaine comme une partie de la société française qui ne croit plus dans les règles du jeu multilatéral, qui ne croit plus dans la société et dans le modèle tel qu'il a été bâti de nos démocraties. Et donc, ils savent que leur grand défi, c'est de reconnecter avec cette partie des sociétés qui ne croient plus dans le modèle. Et je pense que ça les unit également.
En ajoutant que les deux étaient intimement persuadés que c'était leur moment et que c'était un vrai moteur. Donc ils sont tous les deux sur un optimisme forcené qui a fait qu'ils sont allés au bout.
Et à l'instant, c'est la fin de la conférence de presse, les deux présidents partant et bien l'un à côté de l'autre, se tenant par l'épaule justement, un déjeuner. Denis Ferrand, Rexecode.
Peut-être pour ajouter un point sur la dimension diplomatique et militaire, et sans faire une fixation sur la Chine, mais il me semble qu'il y a quand même un paramètre que l'on ne prend pas beaucoup en compte du côté de l'Iran, c'est combien on est sur une tectonique des plaques qui est quand même très particulière, avec la Chine qui pousse très fort les feux sur son projet des grandes routes de la soie, qui passe évidemment par certains pays moyen-orientaux. Et le ministre de la Défense chinois est allé au Pakistan il y a quelques jours pour déclarer qu'il y aurait à côté des routes de la soie une petite composante militaire, une garantie de protection également. Donc il faut aussi trouver les alliés qui, sur une zone qui est quand même extrêmement sensible, extrêmement friable, il faut trouver les alliés qui soient capables aussi de contenir la Chine, pas seulement sur l'aspect économique, pas seulement sur l'aspect monétaire, mais également sur l'aspect militaire, parce qu'il y a une forme d'expansionnisme associée à un projet, là encore, très délibéré, que l'on voit avec le temps long, le projet des routes de la soie.
Bon, on y revient dans un instant. On parlait tout à l'heure de sociétés fracturées aux États-Unis, notamment, c'est Jérémy Galland qui nous le disait, ce que vous avez mis très bien en avant dans Trumpland de Jean-Luc Brana. C'est l'avant-dernier livre, parce que le tout dernier, il est sorti là il y a quelques jours. Hein. Alors là, on est pile, hein. 50 ans, je me trompe pas, hein. 1968, ça y est, j'ai bien calculé. Donc, quand l'Amérique gronde, il avait 20 ans à l'époque, le président américain Donald Trump. On va revenir sur cette conférence de presse, cette visite d'État du président français donc aux États-Unis à Washington. Donc, il est là-bas, donc si je calcule bien, 13h37. À tout de suite sur BFM Business.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, cette conférence de presse, vous avez pu en suivre une partie sur BFM Business, conférence de presse depuis la Maison Blanche entre Donald Trump et Emmanuel Macron, les deux outsiders d'il y a un an et demi, hein, parce que bon, même si eux, ils croyaient, c'était leur temps, donc venir leur temps, comme nous le disait Jean-Luc Brana, bah, c'est vrai que c'était une surprise pour les Français, les Américains et de façon générale, le monde entier. Bon, en tout cas, ils se sont retrouvés tout à l'heure. Qui va prendre l'avantage entre l'un et l'autre? En tout cas, bon, sur le dossier vraiment le plus problématique, le plus épineux, dans la tête peut-être de Trump, justement, c'est l'Iran, bien sûr. Emmanuel Macron annonçait vouloir travailler sur un nouvel accord. Donc, et vous nous le rappeliez tout à l'heure, Jérémy Gallon, vous qui êtes conseiller de politique étrangère dans le think tank Atlantic Council, l'idée c'est de bloquer toute activité nucléaire iranienne jusqu'en 2025, c'était ce qui était prévu. S'assurer à plus long terme justement qu'il n'y aura pas justement et bien de d'enrichissement nucléaire, stopper les activités balistiques pour évidemment emmener quel vecteur de tous les engins, et puis mieux contenir la domination iranienne dans la région, le Liban avec le Hezbollah, le Yémen avec les Houthis, Syrie avec les Alaouites, et puis bien sûr l'Irak bien entendu. Discussion à deux pour travailler donc à un nouvel accord en associant les différents partenaires, Russie, Turquie, les puissances de la région. Et puis à la Corée du Nord aussi. La Corée du Nord doit éliminer son arsenal nucléaire. Donald Trump a exhorté Pyongyang à agir de la sorte, précisant ce qu'il entend exactement avec ses multiples appels à la dénucléarisation. Ça veut dire se débarrasser de leurs bombes atomiques. Très simple, ils se débarrassent de leurs bombes atomiques, c'est très clair. Clairement, là juste, c'est un extrait qu'on n'a pas entendu tout à l'heure, Jérémy Gallon, Kim Jong-un est prêt à entendre ce type d'exigence de la part de Trump?
Ce qui va être très intéressant, c'est surtout de voir ce que les États-Unis vont proposer en échange, puisque il est bien évident que le dictateur nord-coréen va certainement pas arrêter son programme nucléaire en contrepartie de rien.
L'existence de la Corée du Nord et le fait que justement il provoque cette réunion, que Donald Trump aille le rencontrer prochainement, quand ou on ne sait pas encore exactement, c'est parce qu'il a l'arme nucléaire, Kim Jong-un.
Tout à fait.
S'il se débarrasse des bombes atomiques, qu'est-ce qui va lui rester?
Voilà, et je pense qu'il y avait une volonté, d'être considéré par les États-Unis, effectivement, de revenir, d'être considéré comme une puissance avec laquelle il y avait un dialogue. Ça, il va l'obtenir s'il y a la rencontre avec Donald Trump. Mais la vraie question, c'est la question de la survie du régime pour lui, et donc comment elle lui sera garantie. Et donc, il faut voir ce qui va être demandé. Il y a une présence américaine militaire très importante en Corée du Sud. Juste. Est-ce que c'est quelque chose qui va être mis dans la balance? À ce moment-là, quelle serait la réaction d'un président tel que Trump? Jusqu'à présent, c'était un dogme dans la politique.
Ce que vous voulez dire quoi? Donc, il y a une présence militaire importante en Corée du Sud, dans la corbeille, dans la monnaie d'échange. Ça serait, on allège ce dispositif.
Ça, on ne sait pas du tout. Il y a aujourd'hui, les Américains n'ont pas présenté.
C'est une piste.
Ce qui pourrait être. Ça peut être un des points qui peut être évoqué par la Corée du Nord. Il faut voir ce que les États-Unis répondent à cela. Il y a eu un dogme dans la politique étrangère américaine jusqu'à présent qui était que c'était quelque chose sur lequel on ne revenait pas. Est-ce que c'est quelque chose que le président Trump est prêt à négocier parce qu'il veut absolument avoir ce deal avec la Corée du Nord? Ça, c'est une question qui se pose aujourd'hui.
Jean-Éric Brana avec nous, également spécialiste des États-Unis, maître de conférence à Paris-Assas. Qu'est-ce qui va être le plus facile à régler pour Trump? Le dossier iranien ou le dossier nord-coréen?
Ah, aucun des deux. Les deux sont aussi compliqués l'un que l'autre. Mais en revanche, pour la Corée du Nord, il a un avantage, et je crois que c'est ce qui le place en meilleure posture par rapport à tous ses prédécesseurs, c'est qu'il ne va pas se placer sur le terrain des valeurs. Il va y aller uniquement en étant très factuel. Donc effectivement, vous m'enlevez les bombes qui ne me plaisent pas, et je pense que je peux envisager votre survie, voire même vous aider. Donc effectivement, qu'est-ce que les Américains mettent dans la corbeille? Est-ce qu'ils retirent des soldats, font le ménage un petit peu dans le sud, mais il n'y aura pas de remise en cause de ce qu'est la Corée du Nord, il n'y aura pas de questions posées aux dictateurs sur les exactions faites aux populations, sur les gens emprisonnés, sur ce qui aurait été inimaginable avec Barack Obama par exemple, ou avec n'importe quel autre président d'ailleurs avant, qui serait arrivé avec une morale américaine bien classique qui aurait dit ce n'est pas acceptable, et évidemment nous vous demandons des comptes. Donc là-dessus, on se dit qu'il y a une possibilité. Maintenant, c'est quand même énorme ce qui est demandé à Kim Jong-un, et on se demande bien comment il pourrait accepter une chose pareille, sachant qu'il a quand même dans la tête qu'à chaque fois qu'un dictateur a accepté cette main tendue, il s'est retrouvé entre...
Au tapis.
Oui, entre quatre, puisqu'on est dans les chaînes actuellement, donc entre quatre planches, ce serait assez clair, et ça pourrait être son sort. Peut-être que la population pourrait se retourner contre lui. Donc tout ça, il l'a en tête. Ça n'a pas l'air d'être un idiot non plus. Il a une certaine culture et surtout un certain regard sur l'histoire. Il l'a souvent dit, il l'a rappelé. Ces événements-là, donc ils sont clairement posés. Il va falloir beaucoup de diplomatie et de persuasion pour arriver à faire avancer ce dossier. Ils le savent des deux côtés.
Alors, la Chine, évidemment, qui sera un des grands acteurs, évidemment, de ce dossier nord-coréen. La Chine est évidemment sur la scène également du commerce international. Comment contenir la Chine? C'est la question que vous posiez tout à l'heure, donc juste avant la pause. Il y a Denis Ferrand, directeur général de CO Euraxecode.
Alors, contenir la Chine, bon, ça peut passer par notamment les sanctions commerciales qui ont été qui sont proposées, qui avec une inflation quand même assez importante, où on voit qu'on est passé maintenant à 150 milliards. Qui pourrait être annoncé. Limiter la Chine, c'est véritablement jouer sur la phase d'expansion que connaît l'économie chinoise actuellement. On est vraiment dans une transformation fondamentale de l'insertion de la Chine dans l'économie mondiale. C'est-à-dire que toute la période que l'on a connue de 2001 à l'entrée de la Chine dans l'OMC jusqu'à aujourd'hui, c'était une montée en puissance de la Chine par l'intermédiaire du commerce. Désormais, la Chine, elle se projette à l'extérieur par l'exportation de son capital. C'est là que l'on a véritablement un changement. L'exportation de son capital en achetant des entreprises qui lui permettent d'acquérir des technologies, qui lui permettent de monter en gamme. C'est ça véritablement l'enjeu de la Chine aujourd'hui. Avoir une montée en gamme et devenir une véritable capacité industrielle pour pouvoir créer des normes internationales, maîtriser les technologies clés, l'intelligence artificielle. Et donc pour cela, il faut racheter des entreprises. Donc les armes qui ont été utilisées par la Chine, les armes du commerce, aujourd'hui, mettre des sanctions sur cette arme qui est un peu ancienne, c'est pas ça qui est adapté, a priori, au moment chinois que traverse cette économie. C'est véritablement jouer sur la maîtrise des transferts de technologie, limiter les acquisitions d'entreprises américaines par la Chine. Et donc, c'est moins le département du commerce qui a joué que le CIFUS qui est
l'organisme américain qui contrôle les prises de contrôle donc des entreprises américaines par des capitaux étrangers.
Donc, vraiment, on change d'arme parce qu'on change de moment chinois.
Jérémy Gallon.
Oui, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. D'abord, ça ne passera, à mon avis, que par un renforcement des règles multilatérales. Mmh. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut une réforme de l'OMC, de nouvelles règles qui régissent le commerce international et qu'on applique beaucoup plus strictement. Et ça ne sera possible que s'il y a une alliance très forte entre l'Union européenne et les États-Unis. Je pense qu'aujourd'hui, on arrivera à contenir la Chine et on arrivera à amener la Chine à re-respecter à nouveau les règles du jeu international que si l'Union européenne et les États-Unis font bloc. Il est donc d'autant plus nécessaire qu'il y ait effectivement cette relation très proche. Ensuite, contrôle des investissements directs étrangers, il est frappant de voir qu'au moment même où les États-Unis sont en train de revoir leur législation CIFUS, l'Europe réfléchit également beaucoup, aussi bien au niveau de l'Union européenne qu'au niveau national, la France avec l'extension du décret Montebourg.
Avec la commission d'enquête parlementaire sur laquelle on a beaucoup planché la semaine dernière parce qu'on avait le rapporteur de ce rapport. Oui, pardon.
Mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir que d'une certaine manière, c'est maintenant la Chine qui dicte le tempo. C'est elle qui dit justement quels sont les leviers que l'on doit actionner. Donc vraiment, il y a un basculement qui s'est effectué dont on n'a pas forcément bien pris conscience et qui est en train de se révéler. C'est une adaptation désormais.
On va réécouter Emmanuel Macron tout à l'heure. Donc parmi les points de divergence, en tout cas, peut-être va-t-il y avoir une avancée de l'un et de l'autre. Il y avait l'Iran, bien entendu, le climat et puis le commerce.
Je me retrouve dans la formule qui a été la vôtre d'avoir un commerce juste et équitable. Nous avons aujourd'hui, quand on regarde le commerce international, des défis conjoints. Il y a des surcapacités dans certains secteurs qui sont bien connus. Nous devons œuvrer ensemble pour éviter qu'elles ne déstabilisent nos marchés ou ne créent une concurrence déloyale. Mais je crois pouvoir dire que nous sommes l'un et l'autre attachés à ce qu'entre alliés, il y ait le respect du droit international commercial. En tout cas, la France y est attachée. Nous avons nos préférences collectives réciproques. Nous avons des situations que nous pouvons sans doute améliorer. Mais je crois que l'un et l'autre, nous sommes aussi attachés à ce que nos entreprises, nos milieux d'affaires puissent travailler sereinement dans un cadre clair et de long terme. En tout cas, j'y suis profondément attaché.
Oui, il faut rappeler, mardi quand même, Donald Trump va décider de maintenir ou non l'exemption donc des taxes douanières américaines, notamment sur l'acier et l'aluminium, donc pour l'Union européenne. Paris espère bien que cette exemption deviendra définitive, permanente. De façon générale, que ça soit sur l'Iran, que ça soit sur le commerce, Macron doit revenir en France avec quelque chose à présenter quand même. Il doit revenir avec un compromis quand même, Jean-Éric Brana.
Ah, moi je crois pas, c'est pas ce qu'il allait chercher, et le Quai d'Orsay était très clair au moment du départ, on n'attendait pas la moindre retombée de ce voyage. Il s'agit d'aller affirmer l'amitié entre les deux pays.
C'est tout. Il n'y a pas d'autres arrière-pensées de la part du président.
C'est déjà énorme, si vous me permettez.
Nous
sommes deux pays alliés, plus qu'amis. On l'a suffisamment dit depuis tout à l'heure sur les plans stratégiques, géostratégiques. C'est très, très important.
Et il n'y a pas de match diplomatique et politique de part et d'autre. Match politique pour Trump vis-à-vis de son opinion en disant regardez l'Iran, regardez le commerce mondial. Enfin, bon, tout son discours traditionnel, électoral, et dont on a eu encore une petite, un petit aperçu il y a une demi-heure à peu près dans la conférence de presse. Et puis Macron également, dire voilà, finalement, se positionner comme leader, peut-être, qui t'a poussé Madame Merkel de côté.
Mais oui, mais c'est justement, je trouve qu'on a deux fiertés pour la France. Hein. La première, c'est d'avoir eu la première cérémonie d'État, ce qui est pas rien. Donc il faut quand même le dire. La deuxième, c'est d'avoir replacé la France dans le concert des nations au premier plan, et ça, c'est à mettre au crédit du président Macron, qui avait réussi sa chaîne internationale quand il est arrivé au pouvoir, qui avait réussi à parler à la fois à Poutine, à Trump, mais également à Erdogan, enfin à tous les leaders du monde, et qui montre qu'il tient ça sur la durée, sur la distance. C'est pas rien non plus. Donc il a vraiment replacé la France très très haut sur le plan international. On avait tendance ces dernières années, souvenons-nous, à dire justement que ce n'était plus le cas. Et ça a des conséquences, là vous allez dire plus que moi, mais sur l'économie, puisque nos entreprises peuvent donc aller à ce moment-là conquérir de nouveaux marchés avec une nouvelle fierté et être un peu plus gonflé, je pense.
Et la France qui redevient attractive encore. Il a rencontré des CEO, notamment des CEO américains. Il voulait absolument rencontrer tout à l'heure Emmanuel Macron. Marc Benioff, le président CEO de Salesforce, qui a annoncé devant Emmanuel Macron que Salesforce va investir plus de 2 milliards de dollars en France au cours des 5 prochaines années. Denis Ferrand, CEO Rexecode.
Oui, effectivement, sur cet aspect d'attractivité, c'est plutôt le directeur général de l'AMCHAM qui saurait...
Il aura aussi la parole,
bien en parler. Mais effectivement, on est quand même aussi dans un enjeu, dans un moment économique un petit peu particulier. On voit que on est plus dans une phase d'accélération de croissance, à la fois aux États-Unis et en Europe, et tout particulièrement en France. On a encore eu ce matin quelques indicateurs en France qui montraient bien que voilà, il y a un pic qui a été franchi. Donc aujourd'hui, tout ce qui peut permettre de réinstaller du flux d'investissement à destination de la France, eh bien, c'est plutôt bienvenu. Donc c'est important de pouvoir regarder cet aspect. Maintenant, les États-Unis, c'est un partenaire important. N'oublions quand même pas que nos premiers partenaires restent aussi des partenaires européens. Donc, effectivement, tous les pas de côté qui pourraient être lus comme tels peuvent être aussi une forme de handicap pour l'économie.
Nos partenaires traditionnels, classiques, voisins. Jérémy Gallon, directeur général de l'AMCHAM France.
Oui, tout à fait. Pour rebondir juste sur un point qui a été mentionné avant, je crois effectivement, et je partage cette analyse, que le président Macron ne souhaitait pas faire un coup diplomatique en allant aux États-Unis. Il sait très bien que les sujets, que ce soit l'Iran, l'accord de Paris, les questions commerciales, comment on recrée un commerce équitable demain et juste, c'est des sujets qui vont prendre énormément de temps, qui vont prendre des mois. Et l'idée, c'est de créer ce dialogue permanent avec les États-Unis pour petit à petit arriver à les remettre dans le jeu multilatéral et construire quelque chose demain de plus solide. Donc c'était cette alliance qu'il voulait vraiment renforcer en allant aux États-Unis. Et à cet égard, je pense que pour l'instant, c'est plutôt une visite réussie. Sur l'attractivité de la France, incontestablement, il y a aujourd'hui un effet Macron qui joue en faveur de la France, de par les réformes structurelles qui ont été menées depuis le début de la présidence, que les investisseurs étrangers, notamment américains, ont bien perçu, réforme du marché du travail, réforme fiscale, etc. Aujourd'hui, les États-Unis sont redevenus le premier investisseur étranger en France, le premier créateur
devant l'Allemagne,
en France, devant l'Allemagne. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, la vraie question pour la France, c'est, et vis-à-vis des investisseurs étrangers, c'est de montrer que ces réformes s'inscrivent dans un agenda de long terme. Ce sont des réformes structurelles et que, effectivement, la France va être capable à long terme de continuer de mener ce programme de réforme et de revenir sur le devant de la scène économique.
Allez, le mot de la fin à Donald Trump, donc sur les points communs entre les deux présidents.
Well, I think that we have very much in common.
Je pense que nous avons beaucoup en commun.
Many things that we, certainly most things we agreed with, we can change and we can be flexible.
Il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous sommes d'accord. Dans la vie, il faut savoir faire preuve de souplesse. En tant que dirigeant de pays, il faut montrer que l'on peut être flexible, que l'on peut changer d'avis. Et nous nous entendons très très bien. Nous sommes d'accord sur de nombreux sujets dont nous avons parlé aujourd'hui. La France est un grand pays et je pense que la France va atteindre de nouveaux sommets grâce à ce président, un excellent président, l'un de vos meilleurs présidents. Et c'est un honneur de vous appeler mon ami. Merci.
Eh ben voilà, il s'arrête jamais. Donc Donald Trump, il serre la main, ils vont se saluer donc et pour repartir ensemble à l'issue de cette conférence de presse. L'un n'a pas pris l'avantage sur l'autre, Jean-Éric Branard.
Ah non, pas là. Là, c'est, non. Ça se termine à la
égalité.
C'est drôlement bien et ouais. Tout le monde est heureux et on s'en va au soleil couchant en chantant une chanson.
Pas de personne à chercher à infléchir l'autre sur certains dossiers.
Pas sur cette image-là.
Pas sur cette image-là. Denis Ferrand, c'est Orex et Code.
Non, c'est vrai qu'on a une image quand même très très équilibrée, même si à la fin il faut quand même revenir sur les dimensions diplomatiques, les dimensions militaires. Le rapport de puissance n'est quand même pas tout à fait le même et que le jeu européen reste quand même un des meilleurs arguments de la puissance pour l'économie française.
Jérémy Galland.
Oui, tout à fait. Je partage cette analyse. Je pense qu'on est d'abord en train dialogue au-delà de deux hommes entre la première puissance mondiale et la cinquième puissance économique mondiale. C'est d'abord ça le dialogue. Et puis ensuite, un des vrais défis effectivement du président Macron, ça sera petit à petit d'arriver à faire comprendre au président Trump que c'est également avec l'Union européenne qu'il faut qu'il négocie, parce que nous, la France, on arrivera à faire avancer nos positions si on arrive avec une unité européenne sur les grands dossiers.
Et là, il a été question quand même principalement des États-Unis et de la France. Hein,
tout à fait. C'était une visite d'État bilatérale. Mais je suis certain que le président Macron, très attaché au projet européen, a fait avancer également la cause de l'Union européenne.
C'est très bien, voilà, merci à tous les trois. Jean-Éric Brana, 1968, quand l'Amérique gronde, hein, profitez du long week-end du 1er mai à venir justement pour vous replonger dans les 20 ans du président Trump, hein, 1948-1968 à l'époque. Il est spécialiste des États-Unis, maître de conférence à Paris Assas. Denis Ferrand, directeur général de COE Rex & Code, et puis très heureux d'avoir rencontré Jérémy Galland, à la fois directeur général de l'AMCHAM France, la chambre de commerce, et puis conseiller de politique étrangère dans le think tank Atlantic Council, basé à Washington, spécialisé dans les relations internationales. C'est terminé, les décodeurs de l'écho qui reviennent bientôt.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.